Bien, alors écoutez, si je me souviens bien, la semaine dernière, nous avons vu le parallèle qu'il y avait entre la différence de position de Caïn et de Hevel concernant le problème moral et le parallèle qu'il y avait avec la différence de théologie de conception de la relation à Dieu qui s'exprime à travers la différence de leurs offrandes. C'était bien ça que nous avons vu la dernière fois. Okay. Et je vous ai déjà indiqué que, à la suite de quoi il y a eu le meurtre de Abel par Caïn et qu'un sursis avait été donné à Caïn. Donc les choses apparemment ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le supposer. Est-ce qu'il est évident a priori qu'il s'agissait d'un assassinat pur et simple, que Caïn a assassiné Abel, qu'il est coupable? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? J'ai indiqué en passant assez rapidement, si c'est nécessaire de me dire, on pourrait y revenir, c'est qu'il semble que d'une certaine manière, Abel aurait, je mets ça au conditionnel, échoué dans sa tâche de frère, dans sa tâche de berger. C'est clair, vous parlez de cela. Hein, il va se dévoiler a posteriori que non, en réalité, Caïn était vraiment assassin, peut-être inéducable, et que par conséquent, Abel est peut-être innocent. Et seulement, c'est un sursis qui devra dévoiler cela. Un sursis qui est donné un temps d'histoire. Formellement, c'est cette génération qui sera donnée à la civilisation qui est fondée par Caïn, sur ce premier principe d'une identité de la société humaine qui peut-être nous est difficile à diagnostiquer dans notre expérience de la société, une société où, a priori, la dignité de l'autre n'existe plus. Elle est supprimée. Il y a des tendances de ce type dans notre société, dans la civilisation que nous connaissons, mais là, dans le récit biblique de cette première tentative de l'histoire humaine, c'est beaucoup plus radical. L'équation de base de cette cité humaine, c'est que autrui comme tel est supprimé. Le résultat de notre problème, c'est qu'on va substituer le problème social de l'organisation de la cité administrative, disons, au problème moral. Nous allons étudier aujourd'hui. Mais dans tous les cas, tout cela ne se dévoile qu'à posteriori d'un jugement de l'histoire. Je vous ai raconté ce midrash, que cite d'ailleurs Rachi, en grande partie, selon lequel c'est la vérité qui devra dire si Caïn était assassin. Cette vérité éclate quand dans la descendance de Caïn, on fabrique les armes. Vous rappelez de cela. Bien. Alors, nous allons entrer à l'abri de ce sursis. En fait, comme on aura peu de temps cette année, je voudrais assez rapidement arriver au temps des patriarches, déjà, et on est encore bien avant le déluge. Il y a 7 sursis qui sont venus à l'humanité, 7, jusqu'au déluge. Je vais simplement me borner à en analyser un et en tirer les conséquences de cette saturation du mal qui, bien qu'à l'abri de 7 sursis, un après l'autre, l'humanité a le temps de se reprendre. Il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot, dans le dernier chapitre, qui dit que, on voit l'infini de la patience de Dieu, les 10 générations pendant lesquelles tous les sursis sont donnés jusqu'à ce que peut-être il y ait toujours la reprise de conscience de cette humanité, mais toutes ces perches qui sont tendues, tous ces sursis qui sont donnés, c'est dommage qu'on ne puisse pas les étudier en détail, parce qu'on aurait un diagnostic de l'histoire de notre civilisation. Échoue et en fin de compte, saturation du mal, la violence s'installe de façon irréversible dans l'histoire humaine et l'humanité est sanctionnée et le déluge va effacer cette manière d'être homme, qui a commencé par le premier homme, Adam Arishon, à travers Caïn, juste au déluge, un seul rescapé Noir. J'espère qu'on commencera le cours la prochaine fois par Noir. Et donc, c'est à l'intérieur de ces sursis qu'une première aide va être donné malgré, bien que, je ne sais plus comment dire en français, qu'il y ait déjà a priori échec. Comme on connaît déjà l'histoire, elle nous est déjà racontée, alors on a cette tendance de savoir à l'avance ce qui va se passer. Alors faisons l'effort, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas que ça va échouer. Et je vous le répéterai à chaque fois, à chaque étape, tout est encore possible. Ce n'est que parce que nous connaissons la fin de l'histoire qu'on préjuge dès le commencement. Et chaque fois dans l'étude, surtout du Mikra comme tel, il faut prendre garde à cela. On comprend un verset que si deux principes sont acquis. On connaît toute la Torah. Ça, je vais un peu approfondir sur ce premier principe. Sachez bien que c'est la définition même de la Torah Shebealpé, de la Parchamout. On ne peut comprendre un verset que si on connaît tous les autres. Et c'est la grandeur des Meparchim. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand je dis tous les autres, je dis pas seulement de la Torah, du Tanakh tout entier. Et tout est lié, c'est une cohérence absolue. Et par conséquent, il ne faut pas tomber dans cet écueil d'avoir des petites gouttes de Torah, indépendantes l'une de l'autre, des petits détails. Tsar la tsar, kar la kar, tsar la tsar. C'est mikshah. Chaque chose doit être à sa place et elle ne peut être à sa place que si on connaît l'ensemble. Bon, grâce à Dieu, nous avons des maîtres qui connaissent l'ensemble et qui nous enseignent les détails. Mais les détails ne peuvent avoir leur sens que s'ils sont remis dans le monde. Est-ce que c'est clair? Et le deuxième principe, c'est que, donc, on sait tout ce qui s'est passé. Ça nous aidera à mieux comprendre. Mais on ne peut comprendre que si on met entre parenthèses la suite. À chaque verset, on ne connaît pas la suite. Les deux à la fois. Je sais que c'est difficile, mais hors de quoi, on aurait une fausse lecture. Alors donc voilà que la civilisation fondée par Caïn, sur cette équation de suppression de l'autre, il n'y a plus de frère comme tel, il n'y a plus de berger, il n'y a plus d'éducateur dont le mot est faible par rapport au sujet, mais je vous avais indiqué déjà que ce nom va apparaître deux fois d'ailleurs, dans l'aîné de Caïn, ensuite dans l'aîné de Shem, que nous verrons d'autre part, Hanor. Hanor, c'est un substitut de frère qui va essayer de jouer son rôle. Et même là, ces perches données, je cherche un autre mot, mais vous comprenez l'idée, ces aides, Naïm Yavor Ezrich, données à l'humanité en cours d'échec, échouent. Et chaque fois, la Torah nous explique pourquoi. C'est important de le connaître. Je vous inviterai à ouvrir un autre site de tout autre part, ne serait-ce que sur ce sujet, pour diagnostiquer comment ça se passe dans notre monde tel que nous le connaissons. Et donc voilà que, vous allez prendre le chapitre 4, un fils va naître à Caïn. Nous allons voir cette aide inattendue à l'intérieur du sursis, que je vais essayer très rapidement de vous analyser, et nous en verrons le dégagement. Alors, chapitre 4, ça commence au verset Vayedar Caïn, je peux que vous avez, hein, au verset. Prenez le verset 17, tout Zahir. Alors après que Caïn a eu sa leçon de morale, et où Dieu lui dit, si tu te repens, ça s'arrangera, je schématise, et bon, là, c'est dommage, j'aurai la place pour un cours important, une étude importante, que comment Caïn, par nature, est rebelle à l'idée, à l'éventualité du repentir, peut-être quand même, je vais y insister, mais en fin de compte, nous savons par le Midrash que c'est le premier homme qui aura le courage de la Tchouva. Caïn, le deuxième homme, le premier homme de la Tchouva, et que Adam Arishon lui-même apprendra la possibilité de la Tchouva de Caïn. Caïn n'aura pas de Tchouva. Après, moi, je vous en ai versé. Moi, que nous savons que ce n'est pas une Tchouva totale, c'est une Pshara, dit le Midrash. Il faudra attendre David Ameler pour apprendre qu'est-ce que c'est que vraiment la Tchouva à l'échelle de l'individu. C'est le Baal Tchouva par excellence, David Ameler. C'est le chantre de la Tchouva, et nous savons le chantre. Et avant cela, il y a un épisode très important qui est au temps de la faute du Vaudor, où on apprend la possibilité pour une collectivité de faire Tchouva. Mais c'est surtout, si vous voulez étudier le problème de la Tchouva, il faut oublier cet axe de l'enseignement de David Amel. Et c'est pourquoi nous attendons le bel David. Et prenez d'abord cela un peu plus avant, lorsque Caïn se rend compte de ce qu'il a fait et son drame. C'est qu'il ne prend conscience du problème moral que quand c'est trop tard, quand la faute a été déjà faite. Et c'est pourquoi sa conscience est surtout la conscience d'un remords sans issue. Parce qu'il prend conscience de la valeur du bien et du mal une fois que c'est trop tard, une fois que la catastrophe est arrivée, alors il a tendance à ne pas pouvoir percevoir la possibilité du repentir. Pour une conscience qui connaît l'éventualité bien ou mal avant le risque de la faute, l'approche du repentir est plus aisée parce qu'on sait que même si le mal a eu lieu, le bien existe encore. Est-ce que c'est clair? Tandis que pour celui qui ne découvre la valeur morale que dans la catastrophe, alors sa conscience est catastrophique. C'est une conscience malheureuse et qui est enfermée, impossibilité du retour. Si j'avais le temps, je vous montrerai comment apparaît là déjà à l'avance, je vais vous donner quelques indications, ce que le judaïsme a à dire du christianisme, qui découvre la valeur morale dans le péché, dans la faute, a posteriori de la faute, et qui par conséquent n'a aucune possibilité d'envisager le repentir, et il est obligé de s'inventer une stratégie magique pour être sauvé. Je vous ai dit ça très très rapidement, mais Rashi l'indique déjà à l'avance, et très probablement la manière dont Rashi a formulé cela montre qu'il avait certainement en tête, je mets tout ça au conditionnel, mais j'en suis persuadé personnellement, il avait en tête sa propre controverse avec le monde chrétien ambiant dans lequel il a enseigné. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Rashi ne dit que par allusion, parce qu'il est dans un monde culturel chrétien et que c'était dangereux. Or, lorsqu'il parle des choses qui touchent à la position chrétienne, et nous savons que beaucoup de commentateurs chrétiens de l'exégèse biblique chrétienne se sont inspirés de Rashi, nous avons leur tête. C'était une société ouverte, la société culturelle du temps du Moyen-Âge, culturelle. Et beaucoup de prêtres chrétiens ont été des élèves de Rashi, je ne sais pas si vous savez cela, dans leur propre exégèse. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le réponse. Et d'ailleurs, ça recommence à devenir ce danger de la société ouverte en France actuellement. Vous voulez une petite parenthèse, de mon dernier voyage en France, j'ai eu une stupéfaction. La première fois que ça arrive, c'est un signe grave. Vous savez qu'il y a une émission du rabbin de la télévision, de l'enseignement de la Bible, du point de vue du judaïsme. J'ai pas dit de nom. Rechem Rechaim Birkab. Et voilà que il a invité cette année un prêtre dominicain à partager l'enseignement avec lui. C'est-à-dire que le public de la télévision française étudie la Bible à la télévision avec un rabbin et un prêtre. Et voilà, si vous vous rendez compte. Et alors, voilà, la Gola. La Gaule en hébreu, la Gola. Nos ancêtres, les noms de la Gola. Vous savez d'ailleurs que l'emblème de la France, c'est l'emblème des gallinacés, le coq. Et à noter, la Serbie. Je reviens. D'ailleurs, c'est la vertu française, la coquetterie. Je reviens au problème. Et on m'a même raconté, d'ailleurs, il va y avoir une réaction qui part d'Israël. On m'a même raconté que le prêtre en question, je peux citer son nom, c'était quelqu'un de sympathique, c'est le père Dupuis. J'ai rien dit du rabbin. Ce paye la coquetterie d'ailleurs, de dire au rabbin de temps en temps, mais monsieur le rabbin, vous n'avez pas très bien lu en hébreu. C'est dommage. Tout peut arriver. Alors, je vais vous parler du temps de l'école de Rashi. Vous savez d'ailleurs que certains de ses élèves ont été anoblis pour les Grâces de France. Vous avez dans les commentaires de Tosfot le cire de Koussi, le cire de Chinon, vous connaissez tout ça. Bien, alors je reviens en tout cas à ce verset. Lorsque, je vais lire deux versets qui me semblent très importants. Prenons verset 9. Voyomer Hachem El Kaïm, et Dieu dit à Kaïm, et Hevelah, où est Abel ton frère? Le Midrash intervient tout de suite, Dieu sait très bien où est Abel son frère, il est plus. Mais il lui donne pitronpé, c'est-à-dire il l'aide à dire la vérité. Il lui pose une question qui lui permettrait de donner une réponse, « Eh oui, je l'ai tué. » Et vous allez voir la réponse insolente qu'il va lui donner. « Vayomer lo yada, je ne savais pas. » Le texte ne dit pas « Ani lo yodea » en présent. « Lo yada, je ne savais pas. » Le Midrash intervient, il ne sait pas quoi, que frapper ça tue. Mais le plaidoyer, ok, s'il te plaît. Vous ne savez pas, c'est la première fois que ça arrive. Et Ashomer Achri Anochi, suivez bien sur ces trois mots. Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça qu'on traduit habituellement. Mais lorsqu'on sait Amim de la Massora, ça prend un tout autre sens. Est-ce que c'est moi le gardien du frère de mon frère? C'est lui le frère qui devait être mon gardien. Vous avez compris la différence aussi? Ashomer Achri Anochi, c'est le frère qui est le gardien. C'est Abel qui a l'identité de frère. C'était à lui d'être mon gardien. Vous voyez le plaidoyer? Peut-être c'est un mauvais berger. Vous avez senti cela? Ça veut dire, ici, ce Caïn n'est plus insolent. Il est tragique. Il prend conscience de ce qui s'est passé. En même temps, il se rend compte que c'était le frère qui aurait dû être son gardien. Et quand Dieu l'interpelle, il se défend. Il dit, tu m'interroges comme si c'était moi le gardien de mon frère. Mais c'est le frère être le gardien de moi. Vous avez compris la différence de sens ? Et vous voyez, de Rechagab, combien c'est important de lire en hébreu. Alors, ça c'est le premier verset. Si c'est clair, je continue. Et nous arrivons au verset 13. Alors, c'est là que Dieu lui dit, tu as fait ce que tu as fait, maintenant tu es maudit dans la relation à la terre n'aura plus sa récolte, là où il n'y a pas de fraternité, il y a des problèmes économiques. Et puis, on arrive au verset 13. Vayomer Caïn en Hachem, et Caïn dit à Hachem, Gadol Avoni Minesu. C'est à ce verset où il arrive. Gadol Avoni Minesu. Mon avon, ma faute, si vous voulez, est trop grande pour être portée, littéralement. Portée, supportée, ça c'est le niveau du remords. Effectivement, lorsqu'on a le remords d'une faute grave, le remords de cette faute est trop grand pour être supporté en jugement. Bon, c'est une première lecture évidente. Et seulement, Nesso Avon en hébreu, ça veut dire enlever, pas seulement élever, porter, mais enlever une faute. On dit que Dieu est Nesso Avon. C'est une des expressions pour dire pardonner, mais il y a énormément de nuances. Celle-là, c'est que il y avait la faute, bien, on l'élève, on l'enlève. On dit que Dieu est Nosé Avon, plus précisément. Je vous donne une petite parenthèse dans un grand livre, un tout petit livre, un grand livre de contenu du Ramak, on dit Moshe Cordovero, des kabbalistes de l'école du Hari, juste avant l'école du Hari, et que le Hari a connu, a étudié avec lui à la fin de sa vie, à la fin de la vie du Ramak. Et il a écrit un livre de morale, de l'inspiration de la Kabbalah, qui s'appelle le Tomer de Rora. Et où il étudie les choses qui sont les 13 attributs de Dieu, en particulier ceux de la clémence, ceux du pardon. Et il donne un enseignement très important que je voulais vous signaler sur cette expression, que Dieu est Nosé Avon Vapesha Rechata, Nosé Avon, qui emporte, enlève la faute. Le Ramak explique comme ça, il faut le dire Pshat, que Dieu est Nosé Avon, il supporte la faute que l'on fait, il la porte. Voilà quelle est l'idée. Rien ne peut se faire dans le monde si Dieu ne le permet pas. Alors, lorsque c'est le bien, on aide. D'en haut, on vous aide. Lorsque c'est le mal, on nous ouvre la porte, dit la Gemara. Je donne l'exemple de quelqu'un qui veut acheter du parfum, on l'accompagne pour profiter de son parfum. Quelqu'un qui va à la tannerie, ça sent très mauvais, choisir une peau, on lui ouvre la porte, on lui dit c'est là-bas. Vous avez compris vous? Si quelqu'un veut faire du bien, on l'accompagne. Si quelqu'un veut faire du mal, il est libre, mais loin, ça sent mauvais. Vous avez compris? Mais rien ne peut se faire si Dieu ne l'a pas permis. C'est lui qui dirige son monde. Alors, on arrive à ce point. C'est que lorsqu'on fait une faute, on oblige Dieu, si j'ose dire, que la faute à la porter, à la supporter. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est pourquoi la faute est grave. Dans la dimension religieuse, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière à ce coup. Dans la dimension non religieuse, une faute, ça dérange un ordre, pas plus. C'est très important, mais pas plus. Tandis que dans la dimension religieuse, ça engage la destinée de celui qui agit. Là, ils sont de plus que le Ramak enseigne. Ça oblige, et c'est un blasphème épouvantable, ça oblige Dieu à supporter des choses qu'il n'aime pas. Vous imaginez, jusqu'où va la gravité. Et alors, le Ramak l'utilise pour enseigner la patience. Alors, il dit, si Dieu a la patience de supporter les rechaïs, mais il les porte, supporte, alors toi, l'homme, tu peux être patient avec ton prochain. Vous avez compris, si déjà lui supporte, toi aussi. Vous avez compris un peu l'enfer. Et alors, c'est ce sens qu'il y a là dans le verset. Caïn dit, ma faute est trop grande pour être pardonnée. Ça veut dire, il est bouché par rapport à l'éventualité de la tueur. Cette faute-là, il n'y a pas de tueur qui est mort là, qui serait effective. Vous avez compris? Et c'est pourquoi un tel type de conscience refuse la loi. Pourquoi? La Torah comme Torah. Pourquoi? Parce que l'enjeu de la Torah, si c'est sérieux, c'est qu'à la première faute, on est puni, on est perdu. On est condamné, les chrétiens diront damné. Et c'est pourquoi? Parce que c'est une conscience qui est rebelle à l'idée que Dieu peut pardonner, je vais vous dire pourquoi, que la Torah est possible, elle a peur d'accepter la Torah. Parce que si on accepte la Torah, on est condamné, damné. Alors vous n'avez qu'à lire Saül de Tarse, que les chrétiens appellent Paul, et les juifs aiment bien habiter chez les chrétiens. Comment s'appelle le quartier juif? Saint-Paul. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a une faute d'orthographe. C'était originellement Saint-Paul, P-O-L. C'était le mot breton de Paul. C'était un quartier breton, ça, et puis c'est devenu un quartier juif. Alors les juifs ont même imité les chapeaux des bretons. Vous savez, le chapeau. En tout cas, vous allez. À la rue pavée de bonnes intentions, vous allez voir le chapeau. Pour revenir à notre problème, c'est une conscience, encore une fois, qui n'arrive pas à envisager que la Torah soit possible. Et alors, ils se sentent perdus. Mais vous avez là la préfiguration de l'apparition du Christ. On pourrait dire d'une certaine manière que le premier chrétien de l'histoire, c'est Caïn. Et il y a beaucoup d'implications dans ce que je viens de dire là. Okay. Donc. Et alors, le dégagement, c'est le suivant. Ça veut dire qu'il s'agit d'une conscience qui n'arrive pas à considérer que la loi morale, c'est l'expression de la volonté de quelqu'un, le créateur. Et qui considère la loi morale de manière impersonnelle, et l'impersonnel c'est terrible, parce que c'est impitoyable, on ne discute pas avec une loi impersonnelle, à la manière de la loi de nature. C'est la conscience romaine. Elle considère la loi morale que comme une légalité, et avec la légalité on discute. Et vous savez, la tentation légaliste est une tentation très grave lorsqu'on parle d'une loi. Et le paradoxe, c'est vraiment la ruse de l'antisémitisme chrétien, c'est d'avoir accusé les juifs d'être légalistes en les accusant d'être pharisiens dans le sens chrétien, alors que c'est eux qui le sont. Est-ce que vous en avez fait ? Seulement, il faut dire qu'il y a beaucoup de juifs qui passent leur temps à donner raison à ça sans s'en rendre compte. Ils sont légalistes. Je me rappelle quand j'étais au Talmud Torah en Algérie, on les appelait Mapikbe. Vous savez que c'est un hé, il y a un Mapik. Vous savez que c'est un Mapik. Le dagège qu'on met dans le hé, ça s'appelle un Mapik. Il y a des gens qui voient le Mapik, ils ne voient pas le hé. On les appelait Mapikbe. Vous avez compris à quoi je peux pas lire. Et alors, effectivement, la loi romaine, c'est une légalité. Alors avec la légalité, il n'y a pas de pshara, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de choix possible. Je vous donne un exemple, un exemple simple, une loi de nature, la loi de la pesanteur. Alors si quelqu'un veut défier la loi de la pesanteur en disant Dieu existe, peut me jeter du troisième et me rattrapera en bas, eh bien ça ne marche pas. Avec la loi de nature, ça ne marche pas. Vous avez compris ? Et alors, considérer la loi morale comme une loi de nature, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu n'existe pas, parce qu'ils savent que s'ils se restent du troisième, il n'y a personne qui les ramasse en bas. Oui, quelle erreur. On a considéré la relation à la loi morale comme la relation à la loi de la nature. Ça, c'est la mentalité d'une conscience qui ne peut plus envisager l'éventualité de la Torah. Alors, vous avez là tout le commencement de la position chrétienne. L'homme est perdu parce qu'il est né dans la faute et parce qu'il est fauteur. En réalité, il faudra corriger cela. L'homme n'est pas né pécheur. Il est né peccable, ça veut dire libre, capable de fauter. Ça ne veut pas dire qu'on est né pécheur. Je veux dire, ce n'est pas l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, ce n'est pas que l'homme est né pécheur, par fatalité indélébile. Il est né, notre péché originel, si j'ose dire, mettez péché entre guillemets, c'est que nous sommes nés libres. Ce n'est pas né pécheur, mauvais, damné. Vous voyez tout cet univers chrétien, sacristain. Et cette panique de la conscience chrétienne vis-à-vis de la loi. Et c'est très relié à la peur du père. Le père, c'est la loi, c'est le père. C'est-à-dire que c'est des gens sans père. Et effectivement, d'ailleurs, si vous avez remarqué. Et puis, ce que je vais expliquer, c'est que en réalité, c'est une position athée, sur un athéisme profond qui s'exprime comme cela. La loi morale, ce n'est pas la volonté de quelqu'un, c'est un impersonnel de transcendance absolue de type mathématique. Eh bien, on a plaqué une idolâtrie du sauveur. Et c'est pourquoi c'est très difficile à un chrétien de vous parler de Dieu. Il vous en parle comme un philosophe. Ah, ça, c'est le père terrible, hein, demandez-le. Il vous parle du sauveur, de celui qui va vous sauver, du Dieu, un personnel terrible. Vous voyez à quel point le christianisme, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Et qu'il y a une espèce de malhonnêteté de dire judéo-chrétien. C'est malhonnête. Bon, je reviens à mon histoire de la télévision pour vous dire à quel point ça nous inquiète, ce qui se passe chez les Israélites français. Bon. En tout cas, pour revenir à notre problème, vous voyez quel est ce type de conscience qui apparaît là, avec ce verset de Caïn, okay? Impossibilité de croire que la chose est possible. Alors, je reviens à cette illustration par la conscience chrétienne, c'est le polynisme à sa racine. Alors on va s'inventer une stratégie magique pour être sauvé, puisqu'on ne peut pas être sauvé par la loi morale. C'est clair jusque-là? Un jour, je discutais avec un prêtre, et puis je lui ai dit, enfin, vous croyez quand même que la loi de Moïse, c'est la loi que Dieu a révélée. Alors si on ne peut pas pratiquer la loi, on ne peut pas être sauvé par la loi, pourquoi il nous l'a révélée? Et essayez d'imaginer sa réponse. Je vais vous dire la réponse. Invraisemblable. Il nous a dit, la loi de Moïse, c'est la vraie loi révélée par le vrai Dieu pour nous faire savoir à quel point on est incapable de la pratiquer. Et alors, ne croyez pas que c'est stam du jésuitisme rusé, ce que c'est aussi. Il m'a dit, la preuve est juive. Voilà, ils ont reçu la loi, ils ne peuvent pas la pratiquer. Et c'est là que j'ai compris à quel point ils sont gauches, si je veux dire. Et je vais raconter un midrash, parce qu'en plus, c'est l'antisémitisme, ok. Et un midrash qu'on a Gemara Tsouka. Et même si ça nous prend un quart d'heure, parce que je vais paraphraser, je crois que ça éclairera bien. Voilà, à la fin des temps, on va faire le jugement dernier, le dernier des jugements. Et alors, il y a les anges qui préparent le jugement. On ouvre les livres de la loi, les livres des consciences, et on va confronter le livre de la loi et le livre des consciences. Vous savez que chacun a un livre. Et à un certain moment, les anges disent qu'on ne peut pas faire le jugement. Pourquoi? Eh bien, il n'y a que Israël qui a accepté la loi. Donc, vous ne croyez pas que c'est un message anti-juif. Alors, il s'adresse au bon Dieu, on ne peut pas faire ce jugement, on ne peut juger que les juifs. Pourquoi je ne sais pas, je ne pas sentir. Et alors, et pourquoi? Eh bien, aucun peuple n'a accepté la loi, on ne peut pas les juger, mais les juifs ont accepté la loi, on va les juger. Et alors, il dit, eh bien, d'accord, on va juger les juifs, ils ont accepté la loi. Alors, à ce moment-là, il y a une parenthèse dans le midrash que j'aurais dû vous raconter avant, c'est qu'au moment du jugement dernier, les goyim ont commencé à s'apercevoir. Alors la Torah c'était sérieux, on a nous jugé, et disent à Dieu, on ne savait pas que c'était sérieux. On efface tout, on recommence. Et vous avez compris. Alors Dieu leur répond, non, c'était sérieux, on ne recommence pas, on juge. Et alors, c'est pas gentil. Donne-nous ta Torah, tu verras qu'on l'appliquera mieux que les juifs. Eux, tu les as obligés au Sinaï. Donc, ils ont qu'un mérite. Les criadatites. Oblige-nous, tu verras comment on va faire. Vous connaissez cette obligation au Sinaï? Alors, il leur dit, j'ai pas le temps. Vous avez toute la Torah, je vous donne une vision. La soukha. Vous connaissez? Alors là, essayez de faire la soukha. Et si vous faites la soukha, on verra. Et alors, ils font une soukha. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait chauffer le soleil de manière telle qu'il ne va plus rester dans le soukha. Alors, la Midrash raconte qu'il claque la porte de la soukha et rentre dessus. Cette Torah, elle est impraticable. Imaginez le soleil et la soukha. Ouais, ils sont fait un club méditerranéen, mais il est trop chaud. C'est la soukha des goyim. La Gemara intervient. Elle dit, c'est pas juste. Tu leur as donné la soukha. Pourquoi tu les empêches de faire la soukha? Il y a une halakha. Quand il fait trop chaud, on a le droit de quitter la soukha et de rentrer dans la maison. Il fait plus frais. Mais à une condition, pas claquer la porte. C'est ça la différence. Les goyim ont quitté la soukha en claquant la porte. En disant cette Torah, on ne peut pas la pratiquer. Tandis qu'on a joué, venu de quitter la souka pour rentrer chez lui, il dit « Dommage, ma souka, je peux pas faire autrement. » Alors il rentre. Voilà la différence. Ça a l'air d'être rien, c'est tout. Vous avez marré, les juifs vieux, ils sont tristes quand ils ne peuvent pas dormir dans la souka. Vous savez qu'il faut dormir dans la souka. Et alors qu'un goy, eh ben, lui, il claque la porte, il dit « C'est Torah, impratique, elle n'est pas de sauveur. Mon royaume n'est pas de sauveur. Ben, l'œuvre est marquée. » Et il est plus bas. Vous avez compris le problème. Okay. Alors donc, je vous reprends le midrash global. Au moment où on allait juger Israël, il y a tous les goyim, c'est dans la Maseret, qu'est-ce que j'ai dit comme Maseret ? Sota. Je pense à ça. Maseret Sota, la page 2. Les goyim veulent témoigner. Alors Dieu dit, hein, témoigner. Suivez. Alors qu'est-ce qu'il témoigne ? Il témoigne, comme un seul homme, nous avons fait tout notre possible pour empêcher Israël de pratiquer la Torah. Alors Dieu dit, ouf, il s'adresse à Israël, mes enfants ont échappé bête. Bon, vous avez compris, je refais avec la parenthèse. Ça veut dire, quelle est la grande différence d'attitude de la conscience? Et c'est vrai, les goyim ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils nous ont même inventé des amitiés judéo-chrétiennes. La grande différence, c'est cela. C'est une conception de la loi morale. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est une conscience religieuse athée sur laquelle est plaqué un mythe magique païen. Parce que un jour, je vous parlerai de ce mythe-là. Mais je voudrais que les choses soient bien claires. Okay, si vous lisez un théologien chrétien, quand il vous parle de Dieu, il ne sait pas de quoi il parle comme un philosophe. Mais quand il vous parle du sauveur, alors ça, c'est sa religion. Vous avez compris cela ?
Vous avez cette conscience athée chez Calvin. Il a quand même reçu de la part, il y a l'existence d'un autre, d'un interlocuteur.
Oui.
Il sait.
Ça, c'est encore plus accusé, par exemple, quand on arrivera dans la lignée de chef avec Enoch. Enoch sait que, et pourtant il invente les idolâtres des médiateurs, hein. C'est cette conscience de la créature qui est, une fois qu'elle est créature, qu'Anitish, et Hachem vous rappelle du verset, s'acquérant elle-même, est très loin du créateur. Alors bien sûr, il est là, mais là-bas, loin, il ne se met pas de moi. Entre, il y a la loin de l'autre, il y a la nature. Vous avez énormément de déistes qui sont athées, c'est-à-dire ils ont l'idée de Dieu. Mais ils sont déistes. Mais le théisme, c'est pas le déisme. Le théisme, c'est que Dieu est providence, parle à l'homme, se révèle à lui. Le déisme, c'est l'homme qui a l'idée de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ? Alors c'est ça. C'est corollaire à tout ce que nous avons vu de son identité. Il est né créature. Alors il est loin, tellement loin que inconcevable. C'est cette réaction de l'homme de nature, peut-être que Dieu existe, déisme, mais c'est inconcevable, c'est trop beau pour être vrai, alors on va faire comme s'il existait. Vous avez compris ? Et beaucoup de juifs d'ailleurs sont empêtrés dans ce problème, dans la culture contemporaine, mais ils sont quand même différents des goyim. Ils ont cette sensibilité que le peuple juif, lui, est sûr. Et c'est pourquoi... tant qu'on est relié au peuple, parce que le peuple juif, lui, le peuple d'Israël comme peuple, il n'y a pas de question, hein, il est sûr. Quand on est relié au peuple, on est aidé par cette certitude de la communauté d'Israël. Et une des définitions de la halakha, peut-être que c'est un oumar, un renégat, c'est Boresh Midarketibur, celui qui s'écarte de la communauté. Même s'il a Torah Mitzvot, il est oumar. Et la définition du rachat dans la Gala de Pessah, Kafar Baika, Ufi Sheotzi Ratro Minakelal Kafar Baika. C'est, et de notre temps, il faut découvrir qu'est-ce que ce clan Israël, c'est la nation d'Israël. Et c'est pas telle ou telle association, fut-elle culturelle. Bien, alors on revient au problème. Voilà comment le dit Rachid. Vous allez prendre Rachid sur ce que je viens de lire, Gadol Avoni Minasu. Et Rashi a toujours tendance à rendre les personnages apparemment primaires, il les rend un peu plus intelligents. Et vous allez voir toute la doctrine chrétienne arriver là. C'est quoi je disais tout à l'heure que, il me semble, je dis ça objectivement, il me semble, mais encore une fois, je suis persuadé d'être dans plein problème de la confrontation avec les prêtres chrétiens du temps de son temps, qu'il avait en tête la manière dont les chrétiens parlent de cette question. Regardez donc dans Rachid, je vous le dis, au début du verset 13, Bitmia, premier mot de Rachid, Bitmia, ça veut dire ceci. Le verset, lui, est affirmatif. Gadol avoni minesu, c'est une plainte, une anaha, mais c'est une anaha, un autre sens, anaha, une plainte. Anaha, c'est un postulat, une affirmation, anaha. Bon, c'est un jeu de mots en hébreu qui est arrivé comme ça. Et alors, ça veut dire qu'Aïn se plaint. C'est une désolation. Okay. C'est vraiment de l'existentialisme. Mais pris au piège, fini. C'est irréversible. Socrate a bu la cible. C'est au passé définitif. Okay. Perdu. Ma faute est trop grande pour être pardonnée. Rachid dit non, Bitmia. En réalité, c'est un étonnement de Caïn. Il le fait parler en chrétien. Vous allez voir. Il va dire ceci. Ata, Torel, Elionim et Tarzonim. Caïn s'adresse à Dieu. Toi, tu portes les êtres d'en haut et les êtres d'en bas. Et Avoni, Loé, Charles, Khalifraou. Et ma faute, tu ne peux pas la porter. Oui. C'est comme si Caïn s'adresse à Dieu pour lui dire quoi? Alors, ma faute à moi, elle est trop grande pour que tu la portes sur toi, avec ce christianisme, que l'homme ne peut pas expier sa propre faute, il faut que ce soit Dieu lui-même, par une stratégie infanticide, la prenne sur lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair, c'est évident. Et c'est pourquoi je vous disais que, ici, Rachid nous indique que le premier chrétien de l'histoire, c'est ce Caïn du verset. Parce qu'il faut qu'il tue son fils pour sauver les autres. Ce qui est abominable. Vous savez que le comte de l'arabe de Zara, c'est le mythe chrétien. Vous avez le comte de Fichoud d'Amin, un père qui tue son fils, et quel fils, Israël. Vous avez Gilou Arayot, un enfant qui est sans père. Et puis vous avez Avodazara, épouvantable, l'homme qui se prend trop bien. C'est le mythe païen par excellence. Et ce qu'ils appellent la passion adorable, vous les voyez à genoux devant leur statue, c'est le comte de l'Avodazara. Sfirut Damim, Avodazara et Gilou Arayot ensemble. Si un jour on avait le temps, je vous ferais une analyse des évangiles, vous verrez ce qui se passe là-dedans. Vous savez, vous pouvez en faire comme impur. Ceci dit, ça c'est les fondateurs du christianisme. Et avec les siècles, il y a des chrétiens de bonne foi, de foi, qui sont persuadés que c'est ça la religion d'Israël. Pourquoi le klal du Talmud, c'est Avon Avotam Biedeh. Ils ont la faute de leur père entre leurs mains. Et ils ne sont pas jugés, ils ne seront pas jugés comme les fondateurs. Vous avez compris ce que vous dites? Quand je vous parle comme ça, taquif des chrétiens, c'est les chrétiens d'origine. Les chrétiens actuels ne savent même plus de quoi il s'agissait dans le christianisme originel. Et donc, nous avons un devoir de convivialité avec eux, c'est les créatures du bon Dieu. Et je suis gentil en plus. Et c'est autre chose. C'est-à-dire, on peut être ami personnellement avec un chrétien, amitié des juifs et des chrétiens, mais parler du judéo-christianisme, là, c'est des histoires de théorie. Je vais raconter une histoire, et que j'ai racontée à Marianne. Un jour, je me trouvais, il y a 15 ans, dans un congrès de théologiens et de médecins qui étudiaient le problème des miracles de Lourdes. Et alors, j'étais là comme ça. De Lourdes, vous savez, l'eau lourde. Et alors, j'étais là comme rabbin, et puis il y a un curé qui me demande, monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez au miracle de Lourdes? Je réponds oui, à une condition. C'est que l'Église les enregistre comme miracles. Il y a une expertise, il y avait un silence dans la salle, quoi, le rabbin qui prend le miracle de Lourdes. Alors je vais expliquer. Ça ne veut pas dire que le catholicisme est vrai. Ça veut dire que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, même catholiques. Est-ce que vous avez compris? Il y a eu un deuxième silence dans la salle. Et il s'occupe de chaque créature à sa manière, de la créature. Vous savez comment ça a commencé, Lourdes, une petite jeune fille, je crois qu'elle s'appelait Soubirou. Bernadette Caffi. Elle a eu une vision, elle a vu une belle femme, habillée avec une belle robe, et qui avait une fleur dans la main. Si c'était une petite juive, elle a commencé à discuter. Aujourd'hui, on n'a même pas cette robe-là. Ça veut dire que la petite Goyenne croit. J'ai compris. Chacun a sa manière. Vous vous rappelez quand Dieu envoie un ange à Sarah Imenu pour lui dire, malgré ton âge, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle rit, c'est normal, elle est en bonne santé. C'est normal. Tandis que ça, c'est l'annonce faite à Sarah. Mais ce qu'ils appellent l'annonce faite à Marie, qu'est-ce qu'elle fait Marie? Elle croit. C'est pas sérieux. Et vous avez compris ce que je dis là. Lorsqu'on lit la Bible, notre Bible, on est tranquille, c'est un monde normal. Lorsqu'on lit leur livre, c'est bizarre. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Ils ont un Dieu qui est un fondateur de religion. Vous avez vu ça, un Dieu théologien? Vous lisez les évangiles. De quel Dieu on parle? De quelqu'un qui a fondé une religion. C'est pas sérieux cette histoire-là. Dieu, c'est le créateur des mondes. Et je vous ai dit une fois ça sous cette forme. Il y a aussi des juifs qui croient ça. Que le bon Dieu a créé une synagogue, il a mis un monde autour. Alors qu'en réalité, Dieu a créé un monde, et dans le monde, il y a une synagogue. Vous voyez pourquoi nous avons une relation à la révélation de Dieu radicalement, ça n'a rien à voir. Vous voyez, un bon Dieu qui s'instaure professeur de théologie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas sérieux. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon, alors quand Sarah rit, on est tranquille. Il y a sept rires dans ce rire, dont le rire de joie, le rire de triomphe. Mais elle rit, hein, c'est sérieux. Tandis que vous voyez une scène à la romaine, okay, vous avez une jeune fille, une jeune femme, qui voit un ange. Et après la révélation, voir des anges, ça c'est. Et qui lui dit quoi? Eh bien, tu sais, tu es vierge, mais tu vas avoir un enfant. Et elle se met à genoux, tu es dehors, les grands hommes de la cathédrale. Tout ça, c'est du paganisme. C'est pas sérieux. Bien sûr, mais ils croient que Dieu ne sert pas à faire des miracles. Je veux dire, quand vous étudierez les textes, vous apprendrez que les miracles auxquels on croit, c'est de deux sortes. Premièrement, des miracles qui ont eu lieu au temps de la révélation. Or, le temps de la révélation a cessé il y a 2600 ans, avec les derniers prophètes. C'est à ces miracles-là qu'on croit. Et deuxièmement, on diagnostique des miracles dans la vie quotidienne, et ce sont vraiment des talmides, des hachamim spécialistes qui peuvent vous dire si c'est un miracle ou pas, et ce sont des miracles normaux. Ce n'est pas des histoires de fous. Et par exemple, quand vous avez un veau à 5 pattes qui n'est pas un miracle, c'est un déchet statistique. Alors, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, vous croyez que c'est un miracle? C'est un déchet statistique. Alors, quand vous avez un livre qui vous reprend les histoires du Tanakh à la manière païenne, la première fois c'est l'histoire, la deuxième fois c'est le mythe, est-ce que ça ne vous a pas frappé, puisque je vous ai donné cet exemple en passant, c'est pas ça que je voulais parler d'ailleurs, ça ne vous a pas frappé que l'histoire de l'annonce faite à Marie, c'est une reprise païenne de l'annonce faite à Sarah? Alors la première fois ça va, la deuxième fois c'est suspect. Quand tous les évangiles c'est comme ça, c'est l'histoire d'Israël reprise à la manière païenne, sous forme de mythe. Tout, depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, ici, on n'est pas dans un couvent, on est dans une niche. Alors, économisez le temps. Et, alors, je reviens au problème. Je suis prêt, si vous avez du temps à perdre, à demander à un des prêtres de Jérusalem de venir avec moi, avec sa Bible en latin. Exactement. Avec sa Bible en latin et moi, ma Bible en hébreu, si vous avez du temps à perdre, et vous lui poserez des questions que vous voulez. Alors, je reviens. Mais ce n'est pas logique. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Je sais très bien qu'il peut y avoir, étant donné votre histoire individuelle, personnelle, des sensibilités qui sont choquées de la manière dont je parle, parce que je parle vite. Mais vous pensez bien que je ne me hasarderai pas à dire des choses que je n'ai pas étudiées. Ça veut dire qu'il y a des sources. Est-ce que c'est vrai? Donc, je n'ai pas votre âge. Alors, voilà ce que je disais. D'autant plus que je vous disais, on ne discute pas de sensibilité à sensibilité. On discute de connaissance à connaissance. Et quand je vous ai décrit ce que dit Rashi sur Caïn, et que je vous ai dit ça, c'est la conscience chrétienne, là vous n'avez pas réagi. Quand j'ai atteint la sensibilité païenne de la conscience chrétienne, là votre réaction est suspecte. Je parle à qui? Je parle pas à tous. Alors je vais en parler. Nous sommes donc à l'intérieur de ce premier sursis. Et